Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, ça ne change pas. Média et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Il sera question de cinéma avec le clan et de BD avec une addiction pire que la cocaïne, le sucre. Ce sera en deuxième heure aux alentours de 10h30. Vous retrouverez évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage et un petit nouveau dans l'équipe que vous avez entendu pendant les fêtes avec Thomas Hill, Rémi Jacob, journaliste média à la carrière déjà longue. C'est lui désormais qui tiendra le journal des médias et qui nous donnera les audiences télé. Bienvenue à lui et un big up à Louise Bernard, parti pour nouvelles aventures. Notre info média avec cette question: comment filmer une manif la veille de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites? Raquel Garrido faisait la leçon sur BFM à Bruce Toussaint et créait la polémique. Bonne question, faut-il filmer d'en bas ou d'en haut? Réponse avec Cécile Hertz de France 24 qui connaît la chose et la sémiologue Elodie Milcarek qui connaît également la chose pour des raisons et des regards différents. Nos invités ensuite, le journaliste reporter Martin Boudot pour une nouvelle série documentaire Planet Killers qui démarre ce soir sur France 5 avec un épisode sur le trafic d'ivoire et l'arnaque au CO2. Le crime environnemental rapporte 250 milliards de dollars par an. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est irrémédiable. Enfin, la chanteuse Chimène Badi pour son nouvel album en forme d'hommage. Chimène chante Piaf et une grosse tournée. Elle sera avec nous dans une heure dans ce studio. Vous savez où elle était hier soir? Sur la scène de l'Olympia. On va lui demander comment ça s'est passé, en espérant qu'il lui reste de la voix. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Et donc, bonjour et bienvenue Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias.
Les JT nationaux de France 3 qui seront supprimés à la rentrée, un projet qui suscite de nombreuses craintes en interne également. La fermeture de la chaîne RT France, une nouvelle règle, et oui, dans Pékin Express. Et enfin, la toute première série télé de Xavier Dolan, c'est ce soir sur Canal+, c'est un événement et il a accordé Culture Média, une de ses très rares interviews.
Mais on commence d'abord par les audiences, comme tous les matins, qu'ont regardé les Français hier soir le top 3.
Et c'est France 2 qui est en tête avec le thriller Jack Reacher, Never Go Back, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 17% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec le film d'horreur Invisible Man, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 15,1% de part d'audience. Enfin, France 3 clôture ce podium avec la série britannique Mrs. Wilson, programmation décidément très anglophone hier soir, 2 millions de téléspectateurs et 9,5% de part d'audience. Et puis, tiens, un petit mot de la deuxième partie de soirée avec le lancement hier de Beau Geste. Vous savez, Beau Geste, c'est la nouvelle émission cinéma de Pierre Lescure. 398 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous. Et c'est un petit peu mieux que l'émission de Claire Chazal qui était jusqu'alors diffusée sur cette même case et qui réunissait en moyenne 350 000 téléspectateurs.
Pour le reste du week-end, Rémi?
Une chose à retenir, c'est la très bonne performance du Quiz des Champions. C'était samedi soir sur France 2, 2,9 millions de téléspectateurs pour ce jeu présenté par Cyril Ferro, c'est devant TF1 et Ninja Warrior, mais tout de même derrière France 3 et Crimabiote, très solide avec 4,1 millions de téléspectateurs.
Europe 1, le journal des médias.
On démarre avec un projet qui concerne France 3 et sa rédaction, projet qui fait beaucoup réagir et même grincer des dents.
Oui, en septembre prochain, l'offre d'information va être totalement repensée sur la chaîne publique et les téléspectateurs n'entendront plus ça.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20.
Alors ça, c'est, vous l'avez reconnu, la voix de Carole Gessler à la rentrée. Son 19-20 va donc disparaître, tout comme le 12-13 d'Émilie Tran Nguyen et les éditions du week-end de Catherine Matoche à la place des JT produits en région. Ce dossier à France Télévisions, on l'appelle le projet Tempo et il était justement présenté vendredi aux instances représentatives du personnel, une réunion à laquelle a assisté Antoine Chusseville, délégué du syndicat national des journalistes. Il exprime deux principales craintes, on l'écoute.
Sur le développement de l'information régionale, qui est censée être la compensation de cette suppression, c'est extrêmement flou. On ne sait pas dans quelles conditions ça va se faire, on ne sait pas sur quels horaires, on ne sait pas avec quel projet éditorial. Et puis, une autre crainte très importante, ce sont les nombreux journalistes qui fabriquent l'information nationale sur France 3 actuellement. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, dans quelles conditions ils vont travailler, pour quel reportage. Donc ça, évidemment, socialement, c'est une grosse inquiétude.
Antoine Chusseville, au micro de Culture Média. Alors du côté de France Télévisions, on insiste sur le fait qu'un dialogue va avoir lieu dans les prochaines semaines, qu'évidemment aucun licenciement n'est prévu et puis qu'il y a une forte ambition éditoriale, celle de proposer des éditions concoctées sur mesure par les différentes régions, avec toujours une dose d'actualité nationale.
On reste du côté de France Télévisions, le sort de Salto était également à l'ordre du jour vendredi.
Ah oui, la plateforme de vidéo à la demande dont l'avenir s'assombrit vendredi, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a acté son désengagement de la plateforme de la même manière que l'avait fait notamment auparavant son partenaire TF1. Si Salto ne trouve pas très rapidement un repreneur, ce qui semble l'hypothèse la plus probable, elle sera donc tout simplement dissoute.
La chaîne RT France, Rue Château des France, va fermer ses portes.
Fin de partie pour la branche française de la chaîne russe RT. On l'a appris samedi, une annonce effectuée sur Twitter par sa présidente Xenia Federova. Cette décision intervient à la suite du gel de ses comptes bancaires, une mesure qui avait été décidée en application de sanctions européennes contre la Russie. Sa présidente évoque, je cite, un acharnement. De son côté, Moscou a promis de prendre des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie.
Et on part sur M6 qui va très prochainement diffuser une nouvelle saison de Pékin Express.
Et oui, 17e saison pour ce jeu d'aventure. Alors ça sera diffusé dans quelques semaines, mais on vient d'apprendre, de découvrir toutes les nouveautés qui vous attendent. Le top départ sera donné sur les rives du lac Titicaca en Bolivie avec, dès le début, une épreuve dans son eau glaciale. J'ai vu le premier épisode, Philippe, ça met tout de suite dans le bain.
Vous avez eu froid,
j'ai eu froid pour eux, exactement. Direction ensuite le Paraguay, puis le Brésil, et pour pimenter le tout, vous allez voir, il y a cette année une nouvelle règle, ça s'appelle le choix secret. Explication de son présentateur Stéphane Rothenberg.
Mais jusqu'à présent, lorsqu'on était dernier de Pékin Express, on choisissait son adversaire pour le duel final qui était une course ultime éliminatoire. Et là, c'est plus le cas. Lorsqu'on est dernier, on ne choisit pas son adversaire, ce sont les autres candidats qui, à bulletin secret, choisissent le binôme qui va devoir faire le duel final. Ça change beaucoup de choses, ça met de la stratégie, ça change quand même le rapport des candidats entre eux, le stress. Jusqu'à présent, quand on était, on va dire, entre la deuxième et l'avant-dernière place, on déroulait un peu dans Pékin parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas jouer la victoire, mais qu'on n'était pas en danger d'élimination. Là, ça met la pression de la première à la dernière seconde et ça marche.
Et puis un petit mot également sur le casting avec un binôme, vous le verrez, particulièrement savoureux. Il s'agit d'un patron, Xavier, qui part avec son employé. Elle s'appelle Céline, ils travaillent ensemble depuis 10 ans, mais ils se vouvoient et dès la première nuit, ils vont devoir partager le même lit chez l'habitant. C'est évidemment assez inhabituel comme situation entre collègues de travail. Et c'est donc à découvrir prochainement sur M6. Philippe, est-ce que vous voulez qu'on s'inscrive tous les deux en binôme?
Pas du tout. J'ai aucune envie d'avoir froid. On termine ce journal avec la première série de Xavier Dolan, une série diffusée ce soir sur Canal+.
Et ça sera évidemment en prime, une série événement, ça s'appelle La nuit où Laurier Gaudreau s'est révélé. C'est un thriller psychologique en 5 épisodes. On plonge au cœur d'une famille déchirée par le mensonge et c'est donc la toute première fois que le réalisateur québécois travaille pour la télévision. Et ça faisait très longtemps qu'il voulait sauter le pas, lui qui est un véritable enfant de la télé, comme il me l'a expliqué au micro de Culture Média. On l'écoute.
J'ai grandi avec la télé, avec les téléséries, les feuilletons américains, québécois. Adolescent, je m'échappais beaucoup dans les Charmed, Roswell, Smallville, Buffy. C'était une espèce d'échappatoire, je pense, à une réalité qui était un peu morose. La première chose que j'ai jamais écrite, c'est une série télévisée qui n'a jamais vu le jour, mais à 15-16 ans, j'écrivais un feuilleton télévisé à l'américaine de 18 épisodes. j'ai toujours été attiré par le monde de la télé et puis je suis content d'enfin pouvoir franchir cette frontière.
Alors aujourd'hui, Xavier Dolan, il explique vouloir prendre du temps pour lui et faire une pause dans sa carrière, car vous allez l'entendre, cette série lui a pris énormément d'énergie.
J'ai tout donné en termes d'énergie, en termes de temps, d'esprit, de psychologie. Donc j'y ai laissé encore plus de moi-même que dans de précédents projets, parce que c'est une question mathématique, je pense. 5 épisodes d'environ 1 heure et 5, c'était un peu comme 5 films. Et puis ils ont été faits avec la même passion, la même excitation, le même désir de précision, de souci du détail. Donc forcément, c'était assez drainant. C'était un défi immense qu'on a tenté de relever. On était ambitieux, on était rêveurs, on ne s'est rien interdit. On nous a donné les moyens de nos ambitions, donc il n'y a eu que de la passion.
La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, série à voir en prime ce soir sur Canal+. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, alors que s'est engagé le mouvement social contre la réforme des retraites avec des manifestations. Question média, comment les filmer d'en bas, où on voit les casseurs, ou d'en haut, où on voit la masse et la foule? Réponse avec Cécile Herz de France 24 et une sémiologue, Élodie Melkarek. On y réfléchit avec vous, avec nous. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
La première journée de mobilisation à l'appel des syndicats contre la réforme des retraites, elle se tenait jeudi, s'annonce comme le feuilleton politique et social de ce début d'année. Mais le premier épisode n'avait pas déjà eu lieu que certains s'inquiétaient de son traitement médiatique. La veille des manifestations, le mercredi, Raquel Garrido apostrophait Bruce Toussaint sur BFM TV et créait la polémique avec cette question: comment filmer une manif? Vue du ciel ou du trottoir? Du côté de la police ou des manifestants? Du côté des familles bon enfant ou des abribus détruits par les black box? On peut filmer des heures entières en direct ou alors présenter un reportage monté efficacement pour servir un propos. Bref, à l'heure où la défiance à l'égard des médias n'a jamais été aussi forte, on a le sentiment que pour certains, c'est « dis-moi comment tu filmes manif, je te dirai ce que ta chaîne veut me faire penser ». Pour en parler, deux invités ce matin, deux connaisseuses du dossier. Virginie Herz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du service reportage de France 24. Après avoir été longuement et des années sur le terrain, vous êtes au cœur de la fabrique de l'information. Avec nous, Élodie Mielzarek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, intervenante régulière à l'Université Paris 5. Et votre métier, sémiologue, c'est observer des systèmes de signes, des images et d'en déceler le sens. Et justement, toutes les deux, je voudrais vous faire réagir à un premier extrait, celui qui nous a donné l'idée de traiter ce sujet. Nous sommes donc mercredi, veille de la première manif contre le projet de loi. On est dans l'émission de Bruce Toussaint sur BFM TV. La première journée de mobilisation aura lieu le lendemain et Raquel Garrido, députée LFI, donc qui est contre cette réforme des retraites, a quelques conseils à donner à la rédaction.
Mais moi, j'ai une demande moi, à l'attention spécifique de BFM. Spécifique.
Allons bon.
Oui, parce qu'une journée comme celle-ci, c'est une journée, il faut l'envisager un peu comme un tournage. C'est comme un tournage avec une feuille de service à 7h du matin, les images sur les forces, la veille des informations sur les CRS et compagnie. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des moyens de tournage qui soient de hauteur. Qu'on voit cette masse, qu'on voit la grande avenue pleine, que vous preniez les points d'en haut, que vous ne faisiez pas le petit plan, là, le plan serré sur l'abribus un peu abîmé à 10h du matin qui va effrayer madame et monsieur tout le monde. Je pense qu'on a tous aussi un rôle. C'est évident que dans le traitement des mouvements sociaux par le gouvernement...
Attendez, il faut que je prenne des notes.
Alors,
attendez, parce que Raquel Garrido est en train de nous expliquer comment on doit filmer une manif.
Ben, c'est-à-dire que quand...
Alors allez-y.
Bruce Toussaint ironise. Virginie Herz, comment vous trouvez pertinente ou pas cette leçon de journalisme de Raquel Garrido?
Pas forcément pertinente. En tout cas, tous les reporters savent que quand on couvre une manif, on a des plans serrés, des plans moyens, des plans larges. On prend vue d'en haut, vue depuis la rue aussi, et on multiplie les points de vue et les perspectives sur une manifestation. Donc peut-être qu'elle le rappelait, mais c'est quelque chose qui est tout à fait intégré dans notre façon de couvrir des manifs et tout événement d'ailleurs.
Et que vous faites toujours.
Et que nous faisons toujours, absolument.
Quand on voit cette caméra qui est en haut, notamment la place de la République, chaque chaîne a sa caméra ou est-ce que c'est un pool? Est-ce que chaque chaîne décide de ce qu'elle va faire?
Non, alors il y a aujourd'hui des multiplicités de sources d'images. Il y a des agences de presse, il y a aussi maintenant de plus en plus de journalistes citoyens qui filment de différents points de vue. Donc en général, on voit avec les différentes sources d'images qu'on a. Nous, pour cette manifestation spécifiquement, on avait surtout une équipe qui était dans la rue pour couvrir la manifestation en soi, poser des questions aux manifestants, comprendre ce qui se passait. La spécificité de France 24, c'est qu'on émet en 4 langues, donc on avait une équipe francophone, arabophone, hispanophone et arabophone, et notre but essentiel, c'est la pédagogie, expliquer en quoi consiste cette réforme des retraites et pourquoi ces manifestations.
Élodie Melkarek, une femme politique de la France Insoumise, qui explique à un animateur de BFM qu'il faut filmer le réel comme un tournage de fiction, pour la sémiologue que vous êtes, ça doit être du pain béni.
Oui, alors c'est vrai que ce que soulève Raquel Garrido, ce constat-là, à savoir une manipulation du sens à travers l'image, ce constat-là, il est juste, et comme le rappelait votre intervenante précédemment, c'est quelque chose qui est assez connu. Ce qui est néanmoins intéressant, c'est le fait de le rappeler, puisque effectivement, comme je vous le disais, c'est pas récent, hein, Roland Barthes en parlait il y a plus de 60 ans, hein, c'était son premier rapport, de nous dire que finalement, il n'y a pas d'accès au réel, il n'y a que des effets de réel. Donc lui, que voulait nous dire Roland Barthes, c'est que quand vous posez une caméra par terre, même sans rien faire, sans mettre de filtre, finalement, eh bien, vous n'avez pas accès à ce réel-là. Il est déjà médié ou médiatisé puisque il passe par la boîte. Donc le constat est quand même très intéressant. Il est juste, en revanche, là où on peut être un petit peu plus pondéré, c'est sur les préconisations qui, elles, sont un petit peu moins justes puisque finalement Raquel Garrido essaye d'établir une sorte de grammaire de tournage, une grammaire de l'image. Alors une grammaire, c'est sous la forme de si A alors B. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est si on filme en plan très large, alors on voit la masse des gens. Or, c'est un petit peu plus complexe puisque ce qui était intéressant, c'était de voir tous ces plans larges. Alors, suite ou non, on pourra en parler à cette prise de parole. Mais quand on voyait ces plans larges de la Bastille, par exemple, on voyait qu'une moitié de place qui était remplie. Donc, vous voyez que l'effet de sens qui est créé à chaque fois par l'image est assez complexe et dépend bien évidemment du contexte. Donc il ne suffit pas d'avoir des règles de grammaire qui finalement dans la vraie vie, entre guillemets, sont difficilement applicables.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire avant de donner la parole à Virginie Hertz. Que voulez-vous dire quand vous dites qu'il y a une seule moitié de la place de la Bastille qui était montrée, qui était filmée?
Alors non, l'entièreté de la place de la Bastille était filmée, mais en revanche, il n'y avait que la moitié de la place qui était remplie. Donc si vous voulez, en termes d'effet de sens, dans ce qu'elle disait de voir la masse, eh bien, c'était presque à moitié raté, finalement.
Oui, c'est exactement comme lorsqu'on montre dans les meetings politiques des sièges vides dans un meeting. C'est un effet totalement contre-productif. Il vaut mieux ne pas montrer l'entièreté de la salle. C'est ce que vous voulez dire.
Exactement.
Virginie Hertz, vous qui avez une vision très pratique du métier, je vais dire un cliché. Les plans aériens sont du côté des syndicats et les plans serrés sont du côté de la police.
Pas forcément, non, absolument pas, puisque effectivement, parfois, un plan large va montrer que la salle n'est pas si pleine que ça, ou bien que la place n'est pas si pleine que ça. Et les plans serrés, ça dépend qui et ce qu'on montre en plan serré. Non, on n'est pas forcément du côté de la police quand on est en plan serré. Un plan serré, ça peut être aussi un plan sur un portrait de une personne qui parle, qui témoigne, et ça peut être aussi très bien un manifestant qui vient de subir des violences de la part de la police. Donc, il n'y a pas forcément de lien faire aussi direct.
Il y a de plus en plus de street reporters. Les street reporters sont souvent des jeunes qui sont dans la rue, qui filment non pas avec une grosse caméra, mais avec un petit iPhone comme Rémi Buisine, mais il y en a beaucoup d'autres. Et j'étais, parce que c'était pas très loin, j'ai vu la manifestation samedi avec Jean-Luc Mélenchon sur son bus, c'était entre Bastille et Nation si je me souviens bien. Et il y avait des street reporters qui étaient montés sur les abribus, sur le plafond des abribus. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on a vu cette image dans beaucoup de JT. Est-ce qu'ensuite ils vous revendent ou ils vous redonnent parfois des images comme celle-ci, ou est-ce que vous demandez à vos équipes de grimper sur les abribus? Je ne sais pas si la loi le recommande.
Alors, il y a toute une discussion en ce moment justement sur ces images. Est-ce qu'on les achète? En fait, est-ce qu'elles circulent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elles sont mises à disposition sur les réseaux sociaux? Auquel cas, on peut les récupérer sur les réseaux sociaux en sourçant d'où ça vient, en les mettant en perspective, en expliquant qui les a filmés. Généralement, on essaye de contacter la personne qui les a filmés, si on peut l'identifier. Ensuite, est-ce que nous, on demande à nos équipes de filmer en plan large? Là, spécifiquement, nos équipes étaient sur du direct. Donc, elles étaient en position directe à faire des interviews avec les différents manifestants.
Donc, les pieds au sol, pas sur les abribus.
Les pieds au sol, mais à un moment donné, si elles ont du temps, effectivement, tout reporter, et je le faisais moi à l'époque quand je filmais, j'essaye d'aller soit sur un balcon, soit effectivement sur un lit abribus pour avoir un plan large. Ça fait partie de ce qu'on fait quand on est reporter. Mais effectivement, les images ensuite que filment les autres reporters, ou en tout cas les citoyens reporters, peuvent être une des sources d'images qu'on peut utiliser ensuite en les mettant en perspective.
On a parlé de l'image, maintenant on va parler du sens de ce que dit l'image. Raquel Garrido a eu une deuxième leçon pour la profession de journaliste. Culture Média revient tout de suite après ça.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
On parle parle de la manière de filmer les manifestations, on parlait de la largeur de plan, on parle aussi maintenant de la temporalité. On est avec Élodie Mielzarek, qui est sémiologue. Virginie Hertz, vous êtes la rédactrice en chef des reportages de France 24. Les plans hauteurs ne veulent pas tous dire la même chose. Jeudi dernier, on a regardé les JT de 20h, ils montraient tous de magnifiques plans aériens de la place de la République Noire de Monde en début d'après-midi. Et puis, les images en direct sur les chaînes d'infos à la même heure montraient des images aériennes déprimantes de la place de la Nation avec deux ou trois poubelles qui brûlaient. Les plans de haut, Élodie Mielzarek, vous nous l'avez dit, c'est pas la panacée, mais il y a aussi le choix du moment.
Oui, alors c'est intéressant parce que généralement, il y a à la fois l'image, ce qu'elle nous montre, mais l'image est polysémique, c'est-à-dire qu'elle a toujours plein de sens différents, elle part toujours dans plein de directions différentes. Donc ce qui va compter, entre guillemets, c'est la manière dont elle va être narrativisée, c'est-à-dire la parole aussi qui va porter cette image-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui va en être dit en plateau ou bien dans les journaux, comment cette image-là va être légendé. Et puis, vous le soulignez, il y a cette question de la temporalité, les séquences. Hein, ça, c'est un phénomène un petit peu que l'on observe depuis les Gilets jaunes. Il y a des séquences comme ça. Donc, il y a un narratif finalement qui va se déployer sur différents mois, sur différentes semaines. Et parfois, il y a des évolutions. Alors, parfois, c'est pas tout à fait les mêmes images. C'est vrai que si on se rappelle des Gilets jaunes, au début, la tension était moins présente. Et puis, il y a une montée, une escalade comme ça. Alors là, ça va être intéressant pour cet événement dont vous avez rappelé la dimension sociale et l'ampleur. Ça va être intéressant d'observer si justement, est-ce qu'il va y avoir des modifications au niveau des prises d'images ? Est-ce que les événements qui vont être filmés vont l'être de la même manière ? Et est-ce que la parole, telle qu'elle va être portée en plateau par exemple, est-ce qu'elle va être la même ? Puisque là, on était quand même sur un champ lexical euphorique, le terme est un petit peu fort, mais en tous les cas, connoté de manière positive. On avait l'impression que c'était quand même plutôt une ambiance bon enfant. À voir si on reste sur ce même registre dans les semaines à venir.
Alors, on va revenir à Raquel Garrido qui était sur le plateau de BFM mercredi dans son échange avec Bruce Toussaint. Elle s'est faite plus explicite sur ce qui la pousse à taper du poing sur la table à la veille des manifs. Raquel Garrido.
Toutes les manifestations sont filmées de la même façon, quelles que soient les manifs.
Eh bien, il faut l'améliorer. Parce que moi, je trouve que jusqu'à présent, vous êtes très sur le plan serré, là, sur les CRS, l'abribus, etc. Ou le DAB, la distributeur automatique de billets, protégé. Mais ces grandes vues aériennes, où sont vos drones, là, qui vont monter, vont montrer les dizaines et les centaines de survolés.
C'est ça qu'il faut négocier.
Nous, on voudrait bien utiliser les drones.
Les drones sont interdits, ça c'est un fait. Mais Virginie Hertz, comment vous choisissez le plan ? Elle soulève une vraie question, Raquel Garrido. On peut faire dans un sujet d'une trente, on peut faire 30 secondes sur le saccage d'un McDonald's ou ne pas le faire et ça change le point de vue. Comment vous choisissez vos angles et votre perspective ?
Alors déjà, dans un reportage, il y a plein d'angles différents, il y a plein de plans différents et tout dépend du moment où on le fait. Si on fait un reportage qui récapitule l'ensemble de la journée, on va parler de la mobilisation, on va avoir des sons de manifestants et s'il y a eu des débordements, c'est souvent d'ailleurs en fin de journée, on les montrera mais on ne se focalisera pas à 100% dessus. Mais ça fait éventuellement, s'il y a eu saccage, partie des choses qu'on montre. Il n'y a pas à ne pas les montrer si ça existe. En revanche, on ne va pas se focaliser dessus parce que c'est peut-être un épiphénomène et en fonction justement des débordements potentiels ou pas, on leur donnera plus ou moins d'importance. Mais pour nous, en tout cas à France 24, et là, Raquel Garrido, mais surtout en cause de BFM, parce qu'elle dit qu'ils insistent beaucoup là-dessus, à France 24, nous, on a vraiment une mise en perspective dans notre mission, une pédagogie, parce qu'on s'adresse à une audience à l'international qui ne comprend pas, d'abord, ce qu'est la réforme des retraites, deux, la tradition, entre guillemets, française de manifester, du mouvement de grève, et on essaie de comparer par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays.
Raquel Garrido mettait aussi en cause de BFM, parce qu'elle était en direct sur le plateau de BFM, mais quand même, on sent un sous-texte chez elle. BFM serait du côté de la préfecture, donc du côté de la police, donc contre les manifestants. Vous le ressentez comme tel, Élodie Mielzarek ?
Bah, ce qui était intéressant dans cette séquence, et merci de la traiter, parce que effectivement, c'est assez rare ces moments où finalement on arrive à pouvoir, ou en tous les cas à vouloir décoder ce qui se passe dans les coulisses des médias. Donc merci de proposer aussi ce temps-là de décryptage, parce qu'ils ne sont pas si nombreux. On l'a dit, ce qu'elle soulève est quand même un point intéressant, parce que finalement on est dans la fabrique médiatique, et donc il y a quand même des choses à dire. Et ce que j'ai trouvé pertinent dans cette séquence-là, c'est presque aussi la manière dont cette parole est portée et ce qui en est fait en plateau. Et là, je trouve qu'on commence à toucher à quelque chose d'assez passionnant, c'est-à-dire que quand elle est sur le plateau BFM et qu'elle soulève ça, elle est un petit peu cornérisée, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu isolée, et ça se voit dans les sourires de condescendance que les uns et les autres échangent. Donc elle est plutôt isolée et plutôt seule à porter cette parole-là. Alors après, on peut discuter, et on l'a fait, hein, de dire si elle est juste ou non. On voit que cette parole demande à être nuancée, mais le traitement qui en effet est intéressant. Et vous voyez, aujourd'hui on vit dans un monde qui est très complexe, puisque finalement en plateau elle est mise un petit peu à l'écart, mais regardez la manière dont cette séquence a été récupérée, que ce soit sur les réseaux sociaux, Dailymotion, YouTube, etc. C'est bien le titre, Raquel Garrido donne la leçon à Bruce Toussaint. Donc finalement, alors que en plateau elle est un petit peu seule à porter cette parole là et bien finalement, quelque part, c'est une parole qui devient une parole de pouvoir sur les réseaux sociaux. Donc on a à chaque fois un effet de poupée russe, c'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui est un petit peu mis à l'écart en plateau ou qui vit un moment peut-être un peu plus désagréable que les autres, qui est forcément celui qui est lésé par la suite.
Virginie Hertz.
Oui, en fait, là où elle est dans son rôle, c'est effectivement de rappeler qu'il ne faut pas se focaliser sur certains phénomènes et oublier l'ensemble du phénomène. Donc c'était un peu son propos au départ. Ce qui me pose un peu plus problème, c'est quand elle dit « il faut » filmer un plan large, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est là-dessus que, voilà, parce que à partir du moment où les politiques commencent à indiquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on peut rapidement aussi rentrer dans un phénomène de pression et même voire de censure. Donc il faut tout simplement rien du tout. Enfin, c'est pas aux politiques de nous dire ce qu'il faut faire et pas. Les journalistes en France et les reporters de façon générale savent qu'ils abordent le phénomène par tous les angles et toutes les perspectives données et pour mettre en perspective et pour rendre compte au plus près de ce qui s'est véritablement passé lors d'une journée de manifestation.
Merci beaucoup Virginie Hers. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef des reportages de France 24. Et merci beaucoup Elodie Milzarek. Je rappelle que vous êtes sémiologue. Dernier ouvrage publié, Elodie.
Oui, c'était anti-bullshit, mais le prochain est prévu dans quelques semaines. Mais vous serez informés.
J'espère bien que nous serons informés ici à Culture Média. Merci d'avoir été avec nous toutes les deux en direct. Nous, on se retrouve dans un instant pour parler de la nouvelle série documentaire Planet Killer. Ça démarre ce soir sur France 5. On est en compagnie de son auteur, le journaliste reporter Martin Boudot. Et puis, on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons le reporter Martin Boudot. On parle de cette nouvelle série documentaire Planet Killers qui démarre ce soir sur France 5. Mais d'abord, c'est l'heure de notre killer à nous avec les télescopages de Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques. Et ce matin, vous vous interrogez sur l'espace qui est accordé aux plus âgés à la télévision.
Oui, car en plein débat sur la réforme des retraites, Philippe, au moment où on s'interroge partout, sur les plateaux, sur le bon âge pour cesser de travailler, je me suis posé une question. Où sont les vieux à la télévision ? Quel est l'espace qui leur est accordé et quelle représentation la télé nous offre-t-elle des plus âgés ? Alors, j'ai bien cherché et la réponse est claire. Il y a très peu d'espace dévolu aux plus de 64 ans à la télévision. Et pourtant, le paradoxe est saisissant, ce sont eux, très majoritairement, qui la regardent le plus. Côté présentateur et journaliste, on peut bien sûr citer Michel Drucker ou Pierre Lescure, qui vient tout juste de succéder à Claire Chazal, William Lémergie et Alain Duhamel, mais on est bien embêté pour en trouver des hordes. Et s'agissant maintenant de la manière dont on les représente, dont on montre les plus vieux d'entre nous, eh bien, j'ai été très intéressé par une séquence, un reportage repéré hier matin sur BFM TV. Il était question de la situation sociale au Danemark.
Le Danemark, on part à la retraite là-bas à 67 ans, ça pourrait même aller jusqu'à 70 ans d'ici 2040.
Et la chaîne avait choisi de faire le portrait d'une femme, Gunn-Britt Zeller, une coiffeuse qui, à plus de 70 ans, est encore en activité.
À 72 ans, Gunn-Britt travaille toujours du mardi au samedi et sans rechigner sur les horaires.
Seulement voilà, cette femme âgée est totalement exceptionnelle. Elle est en pleine forme, hyper sportive et d'une beauté renversante.
La coiffeuse est même citée en modèle dans la presse féminine.
Eh oui, sa longue chevelure argentée, son sourire hollywoodien et ses gambettes de jeune première s'affichent en une de la presse magazine du pays. Alors, pourquoi. Qu'est-ce que nous dit ce choix? Eh bien, elle raconte que lorsqu'il s'agit des vieux aussi, la télévision entretient une passion pour les exceptions. Et c'est d'ailleurs en découvrant cette femme de 72 ans que j'ai réalisé que le corps des plus âgés n'est quasiment jamais montré, jamais représenté à la télé. C'est un tabou. Un truc que la télévision cache pudiquement, alors qu'elle passe son temps à montrer très allègrement des corps jeunes et volontiers dénudés. Toutefois, Philippe, dans cet océan cathodique qui ostracise le corps des vieux, un endroit fait figure d'exception.
Groland, le pays où il fait bon rire.
Groland, l'émission de Canal+, qui est, à ma connaissance, l'unique espace médiatique où les corps burinés et les visages ridés ont encore droit de cité. Ce samedi, par exemple, j'y ai vu un homme très largement septuagénaire, bien en chair et presque tout nu, tourné sur le podium qui accueille d'ordinaire les jeunes playmates graciles de la chaîne. Il nous montrait gaiement son ventre rebondi et de dodues fesses roses. Eh oui, car dans Groland, on traite non seulement du corps, mais également de la sexualité des vieux.
Est-ce que vous pourriez me passer un préservatif? J'ai fait une touch avec une fille au cœur du cœur, si vous voyez ce que je veux dire.
On y montre tout, tous les physiques, tous les âges, sans filtre et sans ironie.
C'est la fête! C'est la fête!
Curieux tout de même de constater, Philippe, qu'à l'heure où on débat si copieusement du travail des plus vieux, la télé nous les montre si peu et les cantonne à une si minuscule présipotée.
Allez, salut et zapoy!
Et zapoy, Bruno Donnet.
À demain.
À demain. Martin Boudeau, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, réalisateur de documentaires, multi-récompensé, vous avez travaillé pour Netflix, Canal+, Arte, vous avez passé 5 ans à Cache Investigation et vous développez depuis 3 saisons Vers de Rage sur Fond 5, série de docs d'investigation scientifique qui concerne des scandales environnementaux. Votre actualité, c'est une nouvelle série documentaire Planet Killer sur France 5, le lundi soir à 21h. Les deux premiers épisodes ce soir, ce seront Le Prince du Carbone suivi par Le Roi de l'Ivoire. D'une manière générale, qui sont ces Planet Killers? Je traduis, ces tueurs de planètes.
Planet Killers, c'est donc une nouvelle série documentaire, comme vous l'avez dit, qui nous embarque dans, au sein de l'unité de lutte contre la criminalité environnementale d'Interpol. C'est raconter ce qu'est la criminalité environnementale aujourd'hui, ou les délits liés à l'environnement. Et on a mis du temps à négocier un accord pour pouvoir filmer au sein d'Interpol, plusieurs mois. Cette série que vous allez découvrir ce soir, dont les deux premiers numéros seront dispo ce soir sur France 5 et en ligne, c'est 2 ans et demi de travail pour raconter ce que sont ces criminels environnementaux et quels sont leurs impacts sur la planète.
Comment avez-vous réussi à les convaincre de travailler avec vous? Quel intérêt ont-ils à médiatiser une affaire? Je me suis dit, est-ce que c'est pour accélérer la résolution, parce que les langues peuvent se délier, ou alors servir d'exemple et faire peur aux autres? Quel a été votre argument?
C'est une bonne question, en fait. Je ne pourrais pas trop vous dire ce qui a fini par les débloquer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils aimaient bien notre travail, Interpol. Interpol, leur siège social, il est à Lyon. Faut pas l'oublier. Donc c'est en France, donc c'est plus simple d'avoir des discussions avec eux comme cela. Et ils avaient vu ce qu'on avait réalisé avec une autre boîte de production qui s'appelle Nova, qui s'appelait World's Most Wanted. C'était les criminels les plus recherchés au monde. Et ils aimaient bien aussi Vers de Rage. Donc pour moi, Planet Killer, c'est un peu un sequel entre les deux, un mélange des deux. Et ils aimaient bien l'idée aussi qu'on travaille pour la télévision publique, parce que ça leur faisait un peu peur certaines plateformes, le côté sensationnaliste tel qu'ils le décrivaient. Donc ils aimaient bien ce côté télévision publique avec du fond, et comme vous le dites, il y a plusieurs choses qui aussi les ont convaincus. C'est peut-être d'aider à récolter des informations sur ces fugitifs, essayer de les retrouver, et puis deux, de sensibiliser sur le crime environnemental et les délits liés à l'environnement.
Alors le crime environnemental, pour prendre la mesure de l'enjeu, vous faites parler le patron, le chef du programme environnemental d'Interpol. Il s'appelle Rory Corcoran, il sait de quoi il parle.
J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la police. J'ai surtout travaillé dans le contre-terrorisme, le crime organisé. Mais je suis convaincu que le crime environnemental est la pire forme de criminalité, tant son impact sur notre planète est irrémédiable. Le crime environnemental rapporte 250 milliards de dollars par an aux criminels.
C'est juste énorme, 250 milliards de dollars par an. Et on a l'impression que vous avez coupé la phrase, qu'il allait dire « c'est moins puni que le meurtre » ou que le trafic de drogue.
Exactement. C'est ce qu'ils considèrent être le crime parfait, malheureusement. La criminalité environnementale, c'est... Ouais, ça pourrait être aujourd'hui le crime parfait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez... c'est très peu puni. Et de l'autre côté,
ça rapporte beaucoup.
Ça rapporte beaucoup.
On en vient au premier épisode autour de Cyril Astruc. Qui est Cyril Astruc ?
Cyril Astruc, c'est, il est considéré comme l'un des cerveaux de la fraude à la taxe carbone. La taxe carbone qui a eu lieu en 2009. Pour comprendre, la taxe carbone, ça avait été mis en place suite au protocole de Kyoto. Et ça servait en gros à limiter les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. C'est une sorte de Wall Street environnementale, de bourse environnementale, où chaque entreprise avait un quota de carbone à émettre chaque année. Si les entreprises émettaient moins, elles pouvaient revendre ce quota sur cette bourse et celles qui émettaient trop pouvaient en acheter. Donc c'est vertueux, c'est une sorte de bourse environnementale et des fraudeurs, dont Cyril Astruc, c'est pas du tout le seul, hein, ont réussi à s'infiltrer là-dedans via des entreprises fictives, à faire semblant de polluer et à acheter des faux quotas. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais en l'espace de 8-9 mois, ils ont réussi à détourner 5,5 milliards d'euros de l'Union Européenne.
C'est très complexe parce que là-dessus s'ajoute une fraude à la TVA. C'est qu'il achetait avec un prix, il revendait avec un autre ou l'inverse. Et donc, il y avait 20% qui était pour sa poche. 5,5 milliards d'euros, c'est énorme. Comme dit l'un des intervenants, la fraude a tué le système. Et car cet argent, c'est là où c'est grave, devait notamment financer la lutte contre le réchauffement climatique. Elle avait pour objectif de réduire les émissions de CO2. Et là, tout est fou. Tout est complètement dingue parce qu'il est en France, mais il a aussi la nationalité, le passeport israélien. Il est arrêté en 2010, non pas à cause de ceci, mais parce qu'il est traqué par toutes les... À l'époque où il est traqué par toutes les polices du monde, il mène la grande vie à Tel Aviv. Et un jour, il est arrêté par la police à cause d'un banal accident routier la nuit dans les rues de Tel Aviv. Alors là aussi, ça m'a vraiment frappé. On est en 2012, on voit les images de son interrogatoire. Juste une question, c'est facile à obtenir ?
Non.
On voit jamais aucune image d'interrogatoire de personne en France.
Surtout pas en Israël.
Ouais.
Surtout pas en Israël.
Comment vous avez
eu ça ? J'ai mis un an et demi. Je ne vais pas vous dire comment je les ai eus, mais c'est un an et demi de travail pour avoir ces images-là.
Lors de cette arrestation, les policiers israéliens font le lien entre Cyril Astruc et la mafia carbone. Il va être arrêté en France, il va faire 15 mois de détention provisoire à la prison de Fresnes, puis il ressort libre, sous contrôle judiciaire, là où c'est complètement dingo. Il est sous bracelet électronique, mais il accepte un reportage qui est passé, je souris, en 2015 dans l'émission Le Supplément sur Canal+. Vous passez l'extrait de ce reportage, on le voit et il se met en scène lui-même.
Oui, c'est un personnage haut en couleur, Cyril Astruc, quasiment attachant, caméléon, qui arrive à vraiment être à l'aise dans toutes les situations. Et effectivement, quand il est sous contrôle judiciaire, il se met en scène dans une émission qui s'appelle Le Supplément, sur Canal+, à l'époque. Et on le voit en train d'enlever son bracelet électronique et devant les caméras.
Attends, c'est mieux que ça. Il repart en chantant « Libéré, délivré ».
Oui.
Et après, il part en Porsche. Donc, on sent que le garçon n'est pas pauvre. On saute beaucoup d'étapes. On est obligé, vous comprendrez, en voyant le doc ce soir à 21h. En 2017, à Paris, se tient le procès.
Son procès
dans ce détournement des droits carbone. Il se présente le premier jour du procès. Puis, il disparaît dans la nature le lendemain. Le procès a quand même lieu. Il va être condamné à 10 ans d'emprisonnement, 2 millions d'euros d'amende, mais il a quitté le territoire. Et c'est alors qu'Interpol entre en scène parce qu'un mandat d'arrêt international est délivré contre lui.
Absolument.
Mais on ne sait pas où il est. Et le plus dingue, alors qu'il est en cavale, je n'en revenais pas parce qu'on voit que vous travaillez avec les gens à l'intérieur d'Interpol, alors que Cyril Astruc est en cavale, il envoie un mail à un officier des douanes judiciaires, il s'appelle Emmanuel Duche, et c'est lui qui vous raconte ce mail.
Donc, forcément, il se doutait bien que j'étais au courant qu'il avait pris la fuite. Et il envoie un mail où il s'excuse, où il met en avant son besoin de partir. Bonjour inspecteur, compte tenu de ma situation, je comprendrai si ce mail demeure sans réponse. J'ai dû partir soudainement, et croyez-moi, je voulais plus que quiconque me défendre à ce procès que j'avais tant préparé. Je peux vous assurer que la situation avait atteint un degré de dangerosité que je ne pouvais plus gérer. La folie du milieu traditionnel, les menaces et tentatives à l'encontre de ma personne étaient à leur maximum. Lui, pour payer, mais pas pour un mythe, pas pour une fausse légende, c'est l'idée que j'ai de la justice. Sincèrement, Cyril Astruc.
Et il est parti, il était réellement menacé, il y a eu 6 ou 8 homicides. Et en Israël, parce que votre enquête continue en Israël, on dit qu'il finance la mafia locale en échange de protection.
Il l'a financé, effectivement, c'est des rapports policiers d'intelligence qui en parlent, qui racontent comment toute cette mafia carbone a été tellement irriguée par énormément d'argent qu'à un moment donné, des gens comme Cyril Astruc pouvaient faire tomber des têtes et ils ont été menacés pour tentative de racket, tentative de chantage. Et oui, clairement, Cyril Astruc fait partie des gens qui ont été menacés et c'est comme ça qu'il justifie le fait de ne pas se présenter au procès et de partir de France.
Il part de France, il ne se présente pas au procès, mais vous avez pu le rencontrer. Il refuse votre interview, mais il accepte une rencontre. Vous le filmez en caméra cachée, on entend le son, on l'entend mal, c'est sous-titré. Que vous dit-il ?
En caméra discrète, effectivement, et déjà, pour tout vous dire, je regrette, parce qu'on a failli l'avoir en interview. Il a accepté, refusé. On a discuté pendant près d'une année ensemble. Et oui, j'ai dû utiliser ces images-là, parce que je voulais vraiment avoir le contradictoire. Mmh. C'était important de lui donner la parole. Je ne suis pas auxiliaire de police, moi, ni de justice, donc c'était vraiment important de lui donner la parole, et il me dit en gros que il considère qu'il y a un acharnement, il considère que de toute façon il est israélien, et ce qui est vrai, il a droit de rester sur le territoire israélien, il considère qu'il nie absolument tout dans l'affaire, et que par ailleurs il ne voit pas où a été l'impact environnemental, parce que l'outil selon lui était mal fait. Donc c'était important de lui donner aussi la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Honnêtement, j'ai gardé la substantifique moelle de notre discussion, parce que sinon ça partait un peu dans tous les sens, notamment sur des comptes à rendre les uns les autres.
J'ai noté ce verbatim, je ne vois pas en quoi cela nuit à l'environnement, ce qu'il a fait, ce qui nuit à l'environnement, c'est tout ce qui nuit à l'environnement. Jolie tautologie. À un moment donné, dit-il, je ne suis pas Nicolas Hulot. Fin de citation. Ouais. C'est à voir ce soir à 21h. Merci beaucoup Martin Boudot. Série documentaire Planet Killers sur France 5 à 21h. C'est produit par Première Ligne. Il y a le prince du carbone suivi du roi de l'ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue évidemment. Après les infos de 10h, c'est Chimène Badi, la chanteuse, pour son nouvel album dans lequel elle revisite le répertoire d'Edith Piaf. Et puis Olivier Benkemoun nous parle du clan. Une histoire de bras cassés qui tente d'enlever Sophie Marceau. Et Sébastien Bordenave parle d'une BD consacrée à une addiction beaucoup plus dangereuse qu'on pourrait le penser. Le sucre, c'est pire que la coke, dit-il. Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. À tout de suite.